japonais consacré à la production dans une des langues, et à cet état de la situation en espagnol qui, on le verra avec Soraya Carandel, n'est pas vraiment l'état de la situation que en espagnol, mais aussi dans d'autres langues. Et c'est vrai que le titre « État de la situation en espagnol » désigne un très vaste domaine de production, de réception poétique, autant dire un vrai corps pluriel, cuerpo plural, pour reprendre le titre d'une anthologie de la poésie hispano-américaine contemporaine éditée en 2010 par Gustavo Guerrero lui-même et qui en réalité n'était consacrée qu'aux 30 dernières années, hein, la production hispano-américaine des 30 dernières années. Donc c'est un vrai corps pluriel auquel on fait face. Mais comme c'est la transmission et les médiations de la poésie qui sont au centre de ces rencontres, je me permets, en guise de préambule aux exposés qui vont suivre, d'évoquer deux exemples qui documentent, l'un en Amérique latine, l'autre en Espagne, deux formes très contemporaines de transmission de la poésie au sens large et qui font état de deux tribus ou de deux relais qui sont devenus au fil, puis vers la fin du XXe siècle, mais surtout en ce début de XXIe siècle, si incontournables qu'on en viendrait même à se demander s'il existe encore d'autres formes de salut poétique. En premier lieu, je veux citer le cas du festival de poésie probablement le plus renommé du continent latino-américain, le Festival international annuel de poésie de Medellín, en Colombie.
Bien sûr.
Créé en 1991 sous le nom de Un jour avec la poésie et la participation de 16 poètes colombiens, l'événement qui dure maintenant une semaine a compté en 2017 avec la présence de 93 poètes de 46 nations qui tous ont lu leur création en langue originale. Et la revue qui est à l'origine, Prometeo, la revue qui est à l'origine de l'événement, produit ensuite des numéros spéciaux avec des traductions vraiment à partir de langues très très éloignées, disons de l'espagnol. Cette manifestation consacrée à la poésie n'est évidemment pas exclusive de ce lieu, mais dans le contexte spécifique de la ville la plus forte, Medellín, longtemps paradigme de désordre, de violence liée au narcotrafic, au moins autant qu'au conflit armé, un tel rassemblement autour de la poésie revêt un caractère d'opération cathartique et d'action citoyenne également en intervenant dans l'espace social et redonne à la parole poétique une importante participation dans la création de nouveaux symboles et d'un imaginaire collectif redynamisé et vivifiant. Une poésie d'utilité publique, pourrions-nous dire. Si je me tourne maintenant vers l'Espagne, c'est pour étayer par un exemple la question de la présence de la poésie sur les réseaux et de la diversification des lecteurs auxquels elle s'adresse, des sujets qu'évoquera ensuite Soraya Carandel. Dans ce cas précis et sans autre commentaire de ma part, je me permets de reprendre et de traduire quelques lignes d'un article paru dans El País daté du 7 février 2018. « Je suis poète et j'en vis ». Elvira Sastre, ségovienne de 25 ans, est une auteure à succès dans le domaine de la poésie et par la multidiffusion de son œuvre sur Internet. Née à Ségovie, aujourd'hui elle vit à Madrid et se consacre à l'écriture et à la traduction, à la poésie surtout. Et elle vend. Je suis poète et j'en vis, affirme-t-elle. Elle le dit sans l'ombre d'un doute, solide, direct et consciente d'une héroïcité peu commune dans un pays frappé par le chômage des jeunes. Elvira Sastre se détache comme créatrice dans une génération multitâche, autrement dit, une génération qui danse constamment sur les réseaux, fréquente la rue et sait aussi s'interroger, enfermée dans une chambre. Elvira Sastre dépasse les 290 000 followers sur Facebook, 90 000 sur Twitter et 153 000 sur Instagram. Le partage avec les lecteurs sur Internet a fait partie du processus, observe-t-elle. Dans notre cas, le succès n'est pas tant dû à nous, les auteurs, il relève plutôt du canal. Et c'est donc à ces divers canaux, à toutes ces médiations dont nous allons parler maintenant. Je vais vous présenter donc la première intervention qui sera de celle de Gustavo Guerrero. Gustavo Guerrero est professeur d'histoire culturelle et de littérature latino-américaine contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise, Paris-Seine, et à l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Depuis 20 ans, il est également éditeur-chef du domaine hispanique aux éditions Gallimard. Ancien élève de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, il est l'auteur de plusieurs essais et études littéraires, dont je retiendrai seulement quelques titres. Poétique et poésie lyrique, La religión del vacío, Historia de un encargo, La catira de Camilo José Cela, qui lui a valu le prestigieux prix international d'essais Anagrama en Espagne, et le récent Paisajes en movimiento, Literatura y cambio cultural entre dos siglos. Il a également été éditeur des œuvres complètes, obras completas du cubain Severo Sarduy et des cuentos completos du vénézuélien Arturo Uslar Pietri. Plus récemment, il a édité l'anthologie de poésie hispano-américaine contemporaine Cuerpo Plural, je me suis servi de ce titre tout à l'heure, et Les Bonnes Nouvelles de l'Amérique latine, une anthologie de la nouvelle latino-américaine contemporaine. En tant que poète également, il a publié les livres La Sombra de otros sueños et Círculo de la Dios. Gustavo Guerrero a été professeur invité à Princeton, à Cornell, ainsi qu'à Berne, où il est encore enseignant, m'a-t-il dit, cette année. Et il dirige actuellement le séminaire Médiation éditoriale, diffusion et traduction de la littérature latino-américaine en France, à l'École Normale Sup de Paris. Gustavo, je t'invite à me rejoindre et je dicte le titre de ta conférence, La poésie latino-américaine et la médiation éditoriale française, aventure et mésaventure d'une réception.
Merci beaucoup, Dolores. Et je crois que j'ai un micro déjà, donc d'abord merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravi d'être ici parmi des amis de la poésie et surtout, je crois, parmi des collègues qui regardent aujourd'hui l'avenir de la poésie avec le même enthousiasme et la même préoccupation que moi. Donc je pense que je suis vraiment en famille intellectuellement parmi vous. Et je vais donc parler de l'histoire de cette médiation éditoriale française, du rôle que cette médiation a joué pour la poésie. Et je vais d'abord, bien sûr, présenter les contextes intellectuels de notre recherche sur la médiation des poètes avant d'entrer plus précisément dans la question de la réception d'un certain nombre de poètes en langue française, latino-américain en langue française. Le rôle de Paris, et plus largement de la langue française, en tant que puissante fabrique internationale de la valeur littéraire, est un fait historique connu. Il a été diversement étudié, et il a été même présenté dans une perspective systémique par le célèbre livre de Pascal Casanova, La République mondiale des lettres, en 1991. Devenue une référence incontournable du débat contemporain sur la world literature, l'ouvrage de Casanova a fait l'objet, comme on le sait, de plusieurs critiques incisives et, à mon sens, justifiées. Car, au lieu de proposer une approche ouverte, décentralisée et multilatérale des circulations littéraires internationales, il a proposé une approche si fortement axée sur le champ littéraire français qu'il semble tout ignorer du combat postcolonial contre l'eurocentrisme qui parcourt depuis 3 décennies les études de littérature comparée. Les questions soulevées au début du siècle par Gaia Spivak et par Emily Apter en ce qui concerne le positionnement politique et culturel de la world literature comme un instrument idéologique de la globalisation restent toujours valables à propos de la République mondiale des lettres, mais aussi à propos des travaux de Franco Moretti et plus récemment de David Damrosch. Du côté latino-américain, nous avons été plusieurs aussi à formuler des critiques sur les corpus et sur les présupposés des analyses de Casanova, en particulier en ce qui concerne les relations entre centre et périphérie et la nature de la reconnaissance qu'un poète peut obtenir grâce à la traduction. Ceci dit, il faut admettre que la République mondiale des lettres a eu un effet salutaire car il nous a invités à réfléchir en tant que latino-américains au rôle capital que la médiation éditoriale française a joué dans le processus d'internationalisation de beaucoup de nos auteurs au cours du XXe siècle. C'est un sujet connu, je l'ai déjà dit, mais dont l'évidence est trompeuse, car il n'a jamais fait l'objet d'une étude historique systématique et n'a pas non plus été envisagé d'un point de vue matériel et interdisciplinaire, susceptible d'incorporer aux analyses les apports de la théorie de la réception et de l'histoire de la lecture, de l'édition et du livre. Bien qu'elle n'ait pas complètement ignoré l'importance de la médiation éditoriale française, les études latino-américaines, comme celles d'autres cultures périphériques ou non occidentales, se sont souvent décantées en France et ailleurs pour des thématiques interculturelles, mettant en relief les échanges littéraires entre auteurs, œuvres, écoles, mouvements ou courants. Il est aisé de constater ainsi que les bibliographies sous la place de Paris dans l'imaginaire littéraire latino-américain sont extrêmement abondantes, toutes comme celles qui touchent au séjour des écrivains latino-américains en France et aux liens qu'ils ont entretenus dans la capitale française avec leurs homologues français et européens. Cependant, la question de la médiation éditoriale n'y est pratiquement jamais abordée ou elle l'est d'une manière anecdotique ou franchement oblique. Il y a une exception et les détails. C'est le livre de Sylvia Molloy, La diffusion de la littérature hispano-américaine en France au XXe siècle, un livre de 1972 qui est la version révisée et remaniée de la thèse qu'elle rédigea sous la direction de Régnier Thiamble à la Sorbonne à la fin des années 60. Donc je vous conseille la lecture. En dépit de ses limites chronologiques et méthodologiques, qui sont en partie celles de son époque, le corpus de Molloy s'étendait de la fin du XIXe siècle jusqu'à la réception de Borges dans les années 50, l'ouvrage de Molloy réussit à poser clairement les problèmes de la réception française en termes éditoriaux et historiques, et elle distingue deux périodes, avant et après la Seconde Guerre mondiale, et identifie aussi les protagonistes de chaque période, Valérie Larbaud jusqu'aux années 30, Roger Caillois à partir des années 50. De plus, bien qu'elle fût rédigée au milieu ou en plein boom du roman latino-américain en Europe, Garcia Marquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar, c'était les grandes figures latino-américaines à l'époque. Et le livre de Molloy ne s'est pas laissé aveugler par les lumières de l'actualité. Molloy a donné une profondeur à sa perspective lorsqu'elle nous a invités à comprendre et interpréter ces booms qu'on vivait alors, dans les années 60 et 70, comme le fruit d'une longue histoire qui débute au début du siècle, en 1900, avec la présence des poètes modernistes latino-américains en France. Et c'est une histoire qui va attendre son point culminant à partir des années 60, mais qui avait effectivement commencé bien auparavant, et qui va montrer cette histoire, ce que Casanova appelle l'effet Paris, c'est-à-dire l'influence que la capitale française a pu exercer au XXe siècle sur les principaux centres éditoriaux européens et américains. Le livre de Molloy, La diffusion de la littérature latino-américaine en France au XXe siècle, reste pour nous un livre fondateur. Il est le premier à accorder une attention particulière à l'analyse des politiques éditoriales d'un certain nombre de maisons et de collections françaises, comme la célèbre collection La Croix du Sud, créée chez Gallimard par Roger Caillois à son retour d'Argentine en 1945. Mais il s'agit, malheureusement, je le répète, d'une exception. Depuis l'apparition de cet ouvrage, il y a eu quelques travaux sur Caillois et sur sa collection. Il y a eu des recherches aussi sociologiques sur la situation de la traduction des auteurs latino-américains en France, Gisèle Sapiro par exemple, mais il n'y a pas eu un projet de recherche structuré et systématique sur l'ensemble du champ éditorial français dont on puisse dire qu'il prolonge l'enquête de Molloy et qu'il permet d'examiner les différents aspects historiques et littéraires d'une médiation éditoriale si complexe et déterminante. Depuis 3 ans, nous travaillons à combler cette lacune avec une équipe de chercheurs français et latino-américains qui s'est réunie autour du séminaire de recherche « Médiation éditoriale, diffusion et traduction de la littérature latino-américaine en France » à l'École normale supérieure de Paris. Notre but est d'analyser d'un point de vue littéraire, historique et interculturel la contribution des éditeurs, des traducteurs et de la critique française au processus de diffusion internationale d'un certain nombre de figures et d'œuvres littéraires de l'Amérique latine, principalement au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Pour ce faire, nous prenons appui sur le développement récent des études sur l'édition, car il témoigne d'un changement substantiel dans notre manière d'interpréter les faits littéraires. Il s'accompagne également dans les temps d'un processus de patrimonialisation et de formation d'archives d'éditeurs, de traducteurs et de diffuseurs. Roger Chartier nous l'a rappelé il y a déjà une vingtaine d'années, je cite, « Les auteurs n'écrivent pas des livres. Non, ils écrivent des textes. Et ces textes deviennent plus tard manuscrits, gravés, imprimés et aujourd'hui ils sont informatisés. Cet écart, qui est justement l'espace dans lequel se construit l'essence, a été trop souvent oublié, non seulement par l'histoire littéraire classique, qui pense l'œuvre comme un texte abstrait, dont les formes typographiques n'importent pas, mais même par une esthétique de la réception qui postule, malgré son désir d'historiciser l'expérience de lecture, une relation pure et immédiate entre les signaux émis par les textes et l'horizon d'attente du public auquel ils s'adressent. » Fin de citation. Étudier la médiation éditoriale française signifie ainsi reconnaître l'importance que la matérialisation du texte en tant que livre, que sa fabrication en tant que livre a dans la production du sens et dans les effets qu'une œuvre produit sur ses lecteurs. Si on la replace à l'intérieur du système de circulation littéraire à une échelle internationale, la place de l'édition et des éditeurs de littérature étrangère devient centrale, car ils sont les médiateurs privilégiés des échanges entre littérature et les aires culturelles et linguistiques. Pierre Bourdieu avait déjà souligné la nature complexe et ambivalente de la figure de l'éditeur, tournée à la fois vers le monde intellectuel et vers le monde économique. Plus récemment, François Doss a exploré les ambiguïtés du travail de l'éditeur et les rôles majeurs que celui-ci joue dans les dispositifs éditoriaux. L'éditeur de littérature étrangère ajoute à cette identité complexe, hybride, celle de l'agent ou du passeur interculturel qui établit les réseaux de circulation internationale et administre la diffusion des œuvres venues d'ailleurs. Tout comme les traducteurs avec lesquels il travaille, quand il n'est pas lui-même un traducteur, il véhicule un certain regard sur la langue et la littérature source, mais il doit également tenir compte des réalités de la langue et d'un certain état de la littérature cible. Partagé entre ces deux mondes, tenu d'arbitrer constamment entre son propre goût et celui des autres, entre son ambition intellectuelle et les exigences du marché, l'éditeur construit par ses choix et par l'élaboration d'un catalogue une cartographie de la littérature mondiale où se superpose une vision du monde littéraire de son temps et, comme l'a signalé récemment aussi Mariano Siskin, une certaine vision géopolitique d'un monde réconcilié par l'exercice des lettres et des humanités. Le caractère interdisciplinaire, multidisciplinaire et multidimensionnel de la notion de médiation a fait l'objet de plusieurs études récentes en sciences humaines et sociales, mais en ce qui concerne spécifiquement le domaine de l'édition, elle a été reprise dès la fin des années 90 du siècle dernier par des chercheurs italiens qui travaillaient sur les archives littéraires. Et il a été également développé en France sous les traces des travaux de Roger Chartier, notamment par Brigitte Ouvry-Vial. Elle écrit, je la cite, « Éditer consiste à proposer une lecture d'une œuvre écrite ou visuelle par le biais d'un arrangement conceptuel et formel, papier, format, caractère, mise en page, mais aussi établissement du texte, présentation, traduction, qui conditionne l'essence et l'interprétation de l'écrit. » Fin de citation. Dans les domaines de l'édition de littérature étrangère, comme le signale Sara Carini, cette médiation éditoriale prend la forme d'une traduction complexe. Elle permet de souligner l'importance du rôle de l'éditeur en tant que passeur interculturel, car elle met en relief sa participation décisive dans le processus de formation des signes d'identité d'une littérature à travers l'inscription du texte étranger dans un contexte d'accueil qui va le transformer en l'adaptant à ses propres valeurs, intérêts, possibilités et ou nécessités. Arbre transplanté dans un paysage où il doit s'accommoder à vivre sous une autre lumière, d'autres températures et dans des conditions atmosphériques nouvelles, le texte étranger transformé en livre ne va pas s'acclimater sans altérer en partie sa forme et son sens. Qu'il plus est, si l'on veut qu'il s'acclimate avec succès, il est fondamental qu'il soit capable de satisfaire à des exigences et de répondre à un certain nombre de questions pour lesquelles, originellement, il n'a pas été écrit. Ce processus d'inscription dans un nouveau contexte commence avec les recherches des éditeurs et la sélection des œuvres étrangères qui seront traduites, un choix qui se fait toujours en fonction des critères personnels ou collectifs variables, conduisant à privilégier certains types de textes et à en écarter d'autres. Ensuite, l'inscription se poursuit avec le travail des traducteurs qui sont souvent aussi à l'origine de la sélection des œuvres, mais dont le regard sur les textes amène d'autres inquiétudes littéraires et culturelles qui les transforment, car ils vont réécrire dans leur langue, c'est-à-dire qu'ils vont en accentuer certaines caractéristiques et ils vont en masquer d'autres, toujours partagés entre la nécessité de garantir l'intelligibilité et la compréhension et le souhait de faire entrer la lettre de l'étranger dans la langue et la culture réceptrice, comme le disait Berman. Dans une troisième phase, l'inscription se prolonge par la publication et par la distribution qui place l'œuvre dans les librairies et, suivant différentes stratégies de promotion, il va accentuer certaines caractéristiques de l'œuvre afin d'orienter les jugements de la critique et les choix des lecteurs, voire anticiper leurs réactions. Enfin, lors de l'avant-dernière et de la dernière étape, les comptes rendus dans les revues et les journaux, les bouches-oreilles des lecteurs apportent aussi leur lot de signification à la lecture du texte étranger. Celui-ci peut atteindre plusieurs niveaux de reconnaissance dans son contexte d'accueil, soit commercialement par le volume des ventes, soit intellectuellement par son incorporation au canon de l'enseignement universitaire, soit en tant que succès d'estime critique et parfois en jumelant les différentes formes de reconnaissance telles qu'il s'est produit avec García Márquez ou Vargas Llosa ou les auteurs du boom latino-américain dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Il va sans dire que tout ce processus est particulièrement complexe, d'autant plus qu'il se produit dans le cadre d'une relation asymétrique entre la France et l'Amérique latine, car au XXe siècle, ce sont les grands centres traducteurs et éditoriaux qui créent, imposent et diffusent une représentation de la culture étrangère. Nous parlons de Paris donc comme d'une grande vitrine internationale où l'on voit se refléter secrètement les attentes personnelles et collectives de tous ceux gatekeepers qui participent au double mouvement des décontextualisations et des recontextualisations des textes. Par rapport aux travaux qui l'ont précédé, en particulier par rapport au récit de la diffusion de la littérature latino-américaine en France, élaboré par Sylvia Molloy, notre travail actuel se place à la fois dans la continuité et dans l'ouverture vers une dimension interculturelle et postcoloniale. Car malgré ses qualités, l'ouvrage de Molloy n'est pas encore le livre sur la configuration d'une certaine idée de la littérature latino-américaine en France au XXe siècle. Ce qui lui manque, ce que nous voudrions apporter, c'est l'analyse du jeu de miroir qui peut nous montrer les reflets des attentes de la médiation française dans le processus de diffusion de littérature étrangère. Nous parlons donc de la médiation éditoriale française comme d'un processus actif qui comporte un arbitrage des valeurs, une sélection d'auteurs, une lecture des œuvres, une réécriture des textes et une transformation de leur sens. Nous parlons de la médiation éditoriale française comme d'une puissante machine à produire des canons littéraires et des identités culturelles à usage local ou global, c'est-à-dire une machine capable non seulement de les produire localement, mais de les imposer au niveau global. Enfin, nous parlons de la médiation éditoriale française comme d'une instance de consécration susceptible d'orienter l'effort d'un bon nombre d'écrivains, ce qui rend les récits historiques de la réception internationale de la littérature latino-américaine sans doute plus complexe, plus difficile et plus interactif qu'il ne le laisse entendre l'histoire littéraire classique. En ce qui concerne spécifiquement la poésie, il faut rappeler que la place qu'elle occupe non seulement à l'intérieur du canon littéraire latino-américain, mais aussi à l'intérieur du processus d'internationalisation de nos littératures au cours du XXe siècle, est sans doute capitale. Lors de la polémique autour de la notion de world literature, qui a suivi la publication des travaux de Franco Moretti en 2003, notre collègue Efrain Crystal, comparatiste et latino-américaniste du UCLA, de l'Université de Californie, soulignait à juste titre que les systèmes de circulation mondiale et l'idée de la littérature mondiale de Moretti ne tenaient compte que de la circulation du roman et des formes narratives. Et il posait cette question, je cite, « Est-ce que l'on peut comprendre aujourd'hui l'importance de la Russie dans notre idée de la littérature mondiale sans prendre en compte le rôle décisif de Pushkin, de Mayakovsky ou d'Akhmatova ?» Et il ajoutait après, « En Amérique latine, la poésie a été le genre littéraire dominant jusqu'aux années 60 du XXe siècle. Qui plus est, les poètes et leurs commentateurs ont fixé un horizon d'attente pour les pratiques littéraires et ils ont défini les paramètres du champ culturel. » Fin de citation. Il n'est donc pas étonnant que la poésie occupe très tôt une place de choix dans les circulations internationales des lettres latino-américaines, bien avant le roman. Rappelons que parmi les 6 latino-américains qui ont reçu les prix Nobel de littérature jusqu'à aujourd'hui, 3 sont des poètes, la chilienne Gabriela Mistral en 1945, le chilien Pablo Neruda en 1973 et le mexicain Octavio Paz en 1990. On pourrait aussi ajouter un quatrième avec le guatémaltèque Miguel Ángel Asturias en 1967, car il a également écrit de la poésie, mais je crois que le prix lui a été octroyé essentiellement pour ses romans. Quoi qu'il en soit, il est certain que la poésie joue un rôle majeur dans l'internationalisation de notre littérature et que la médiation éditoriale française, pour des raisons diverses, a été l'un des vecteurs principaux qui a permis la circulation globale de nos poètes et a été souvent un agent de leur reconnaissance internationale, souvent, mais pas toujours de la manière la plus appropriée. Je ne peux que résumer ici une toute petite partie de nos travaux et de nos principales hypothèses sur cette question. Tout d'abord, nous nous sommes concentrés sur une période précise, les 10 années qui vont entre 1945 et 1955, cette époque de l'immédiate post-guerre qui a été si bien étudiée par notre collègue de l'Université libre de Berlin, Susan Klenge. Dans un article paru dans la revue Variaciones Borges en 2013, elle a mis en relief que ce sont des années clés pour l'étude des circulations littéraires nord-sud, car la France, qui sort alors appauvrie et isolée de la guerre, cherche à retrouver sa place sur les scènes internationales, et pour ce faire, elle développe une intense politique culturelle favorisant, entre autres choses, la traduction et la publication des littératures du monde. Je cite, « Les acteurs politiques et culturels de l'époque revendiquèrent et propagèrent énergiquement un humanisme universel, renforcé et renouvelé pour faire face aux destructions laissées par la guerre et aux nouvelles du génocide qui commençait à arriver. » Fin de citation. Roger Caillois, l'un des protagonistes de cette période, résume ses projets humanistes et cosmopolites en une phrase de 1955, je le cite, « À guerre mondiale, littérature mondiale. » Un bon nombre de maisons d'édition françaises d'orientation esthétique et politique diverses, communistes, catholiques, conservatrices, existentialistes, vont ainsi ouvrir leurs portes aux écrivains étrangers et ils trouveront dans les programmes éditoriaux de l'UNESCO, lancé en 1948, la collection « Œuvres représentatives de l'humanité », une source d'inspiration et aussi un mode de financement pour les livres étrangers. La poésie latino-américaine est l'un des genres dont la visibilité atteint dans cette conjoncture un niveau sans précédent. Bien entendu, il avait eu par le passé, comme on le montre bien Sylvia Molloy, un certain nombre de traductions et d'éditions d'œuvres poétiques latino-américaines en France, notamment à l'époque des avant-gardes. Mais à l'après-guerre, s'est produit une florescence d'une qualité exceptionnelle, car en quelques années, on voit paraître des noms et des œuvres qui font partie aujourd'hui du canon de la poésie latino-américaine et mondiale. Le prix Nobel de Gabriela Mistral en 1945 a sans doute joué un rôle non négligeable dans ce phénomène. De fait, la traduction et la publication de sa poésie, l'œuvre de Gabriela Mistral en 1946, donne lieu à une petite guerre entre deux traducteurs, deux collections et deux maisons d'édition françaises. D'un côté, Roger Caillois, la collection du monde entier, les éditions Gallimard. De l'autre côté, Mathilde Pommès, disciple de Valérie Larbeau, Mathilde Pommès, la collection La Cosmopolite et les éditions Stock. Il y a un affrontement entre les deux pour essayer de publier qui publie plus rapidement et d'une manière plus, importante, l'œuvre de Gabriela Mistral. Cet affrontement entre les deux éditions, les deux traducteurs et les deux collections, se solde par un match nul. Il y a aujourd'hui deux traductions et deux éditions françaises de la poésie de Mistral qui paraissent tous les deux en 1946, Poème chez Gallimard avec une préface de Roger Caillois et aussi Poème choisi chez Stock avec une préface de Paul Valéry. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails de ce combat, mais il est essentiel car il montre bien l'importance que va acquérir à partir de ce moment la traduction des poètes latino-américains dans le contexte de l'après-guerre. Car, aux côtés des livres de la prix Nobel Gabriela Mistral, nous voyons paraître aussi en français les poèmes des deux autres futurs prix Nobel latino-américains, Pablo Neruda et Octavio Paz. Le premier, Pablo Neruda, publie une première version des auteurs de Machu Picchu dans la revue Confluence de 1946, puis il va publier deux petites plaquettes de poèmes chez l'imprimeur et traducteur Guy Lévy Mano en 1948, avant le lancement spectaculaire de son Chant général, traduit par Alice Arweiler et publié en 1950 en trois volumes sous les couvertures des éditions français et des éditeurs français réunis. C'est une maison liée à l'époque au Parti communiste français et qui dirigeait à l'époque Louis Aragon, proche de Neruda. Celui-ci, Aragon, va jouer un rôle capital dans la reconnaissance et le rayonnement international de l'œuvre de Neruda au cours des années 50. C'est Aragon qui va impulser la traduction des œuvres de Neruda dans d'autres langues européennes, tout comme Pierre Segers, l'autre grand gatekeeper de la poésie latino-américaine et mondiale dans la France de l'après-guerre. Rappelons que Segers consacre à Neruda en 1954, c'est-à-dire quatre années après la publication du Chant général par Louis Aragon et les éditeurs français réunis. En 1954, il donne à Neruda le volume 40 de la prestigieuse collection Poètes d'aujourd'hui, avec un choix de textes des inédits, une bibliographie et une étude de Jean Marcenac. Ceci est une espèce de consécration de Neruda, quatre ans après la publication de son Chant général chez Louis Aragon, enfin aux éditeurs français réunis. C'est également Segers qui va, avec sa collection Poètes d'aujourd'hui, créer les canons de la poésie internationale en langue française au cours des années 50. Il va publier aussi l'œuvre du poète cubain Nicolas Guillén en 1955. Il va publier deux livres simultanément, Élégie antillaise et Chansons cubaines, dans une traduction de Claude Couffon, qui fait ses premières armes aussi avec Segers dans sa collection Poètes d'aujourd'hui. Et quant à Octavio Paz, il est l'un des poètes latino-américains qui habite Paris à l'époque. On sait qu'il arrive dans la capitale française en 1945 en tant que secrétaire de l'ambassade mexicaine et qu'il commence à assister dès 1946 aux réunions du groupe surréaliste qui ont lieu au Café Cyrano de la Place Blanche à Paris. Dans ces réunions, Il rencontre André Breton, qui deviendra une figure clé dans le développement de sa pensée poétique et aussi dans la diffusion de sa poésie. Breton était un actif militant et il y avait un réseau très important au niveau international qui lui permettait de diffuser l'œuvre des poètes qui gravitaient autour du groupe surréaliste. Et Octavio Paz va rencontrer aussi au Café Cyrano de la Place Blanche son traducteur, Jean-Clarence Lambert, son premier traducteur. Et les premiers poèmes de Paz traduits en français par Lambert vont paraître en 1948 dans la revue Fontaine, dirigée par Max-Paul Fauché. Ils seront suivis d'une nouvelle sélection très importante publiée en 1950 dans l'almanach surréaliste du demi-siècle et par les déclarations d'André Breton dans une interview où il déclare que Octavio Paz était le poète hispanique qui les touchait le plus et que c'était Octavio Paz, l'avenir de la poésie en langue espagnole. Donc, ça veut dire si Breton s'est engagé à la promotion de l'œuvre de Paz. Et Octavio Paz va aussi être responsable, ces années, d'une vaste anthologie de la poésie mexicaine contemporaine qui sera publiée dans la série ibéro-américaine de la collection de l'UNESCO, la collection d'œuvres représentatives universelles de l'UNESCO, avec une traduction de Guy Lévis-Manon et une préface de Paul Claudel. Donc Paz non seulement va publier sa poésie, mais va promouvoir aussi la poésie mexicaine par l'intermédiaire des éditions de l'UNESCO. Il y a bien d'autres poètes dont les œuvres commencent alors à circuler dans les traductions françaises, comme l'équatorien Jorge Carrera Andrade, la péruvienne Blanca Varela, ou les vénézuéliens Vicente Gervasis et Juan Liscano. Mais il y a aussi, je vais terminer avec quelques remarques, il y a aussi une absence de taille dans ces catalogues des grands noms de la poésie latino-américaine du XXe siècle. L'absence de l'Argentin Jorge Luis Borges. S'il est toujours considéré en Amérique latine comme une voix majeure de notre poésie contemporaine, alors qu'il n'est même pas, il n'a pas la même position dans les cartographies aujourd'hui de la littérature mondiale, c'est principalement parce que la médiation éditoriale française, qui a été déterminante dans les rayonnements de l'œuvre de l'Argentin, comme on le sait, est passée complètement à côté de sa poésie. Il m'écoute, là, il est de l'autre côté de l'autre côté du lac, donc il m'écoute là. Et la médiation française n'a pas seulement ignoré pendant plus de 20 ans la poésie de Borges, il faut attendre pratiquement la fin des années 60 pour voir paraître la poésie de Borges, mais en plus, elle a rendu la lecture de cette poésie impraticable par des traductions infidèles et très polémique d'Ibarra d'un côté et de Caillois. Je crois qu'il est intéressant de finir par le cas de Borges car il nous montre nettement les deux visages d'une médiation éditoriale française ou autre comme un vecteur de reconnaissance internationale, mais aussi comme un miroir déformant qui peut produire et véhiculer une image d'un auteur et d'une œuvre très éloignée de leur statut original. Les nouvelles traductions françaises de la poésie de Borges qui ont vu les jours récemment, je parle de celle de Jacques Ancé en 2010 ou celle de Sylvia Baron-Supervielle en 2015, ont la vertu de mettre en relief d'autres possibilités de lecture et d'appréciation de l'œuvre de Borges qui, je crois, commencent à changer les regards et les opinions sur le Borges poète. Elle nous invite aussi à réviser les traductions et les réceptions d'autres poètes latino-américains que nous avons mentionnés, car je crois qu'étudier d'un point de vue critique la médiation éditoriale française n'a pas seulement une finalité historique, mais également littéraire, poétique et même pratique, parce que je crois qu'elle nous ouvre vers de nouvelles lectures qui nous permettent de redécouvrir aujourd'hui, sous un autre jour, un poète, une poésie que nous pensions connaître, mais dont peut-être nous ignorons encore quelque chose d'essentiel. Donc je vous invite, c'est l'objectif de cette petite présentation, je vous invite donc à relire ces traductions, à revenir sur ces traductions, et peut-être à imaginer que ces traductions peuvent être des instruments aussi pédagogique, des instruments de travail en cours avec vos étudiants. Cette relecture entre deux langues qui vous permet, ce que la poésie rend toujours possible, par la densité avec laquelle l'idiome est capable de rendre parfois le réel. Merci beaucoup.